Bien, mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, bienvenue dans cette émission au Capi Service, en direct de Leadership Academy University à Kinshasa. Le maximum de bruit, chers camarades. Merci d'être là, dans cette salle de Fatima, à Kinshasa, à Gombe. Eh bien, nous allons échanger aujourd'hui sur l'entrepreneuriat des jeunes et le leadership dans le cadre de la tournée universitaire qu'organise le département Outreach de sensibilisation de la MONUSCO en collaboration avec Radio Capi. Alors, la grande équipe de production est en place. Elle est composée de Patrick Yassongwa, Tati Mapoukou, Marcel Ngombo, Pamela Loubaki, David Fundi, Mado Sakaji, Jonathan Fonani pour le Facebook Live. Et à vous tous qui nous suivez en direct sur www.radioukapi.net, à tous les internautes, nous vous disons merci d'être connectés. Et merci à tous ceux qui nous écoutent sur la fréquence de la paix. Encore une fois, sous vos applaudissements, bienvenue à tous dans cette émission de la vie au quotidien.
Pour s'informer, de plus en plus d'internautes choisissent radiocapi.net. Chaque mois, vous êtes plus d'un million à nous suivre sur www.radiocapi.net et votre avis nous intéresse. Chaque jour, une question d'actualité est à la une du site, plusieurs propositions. Exprimez votre opinion. Écoutez les résultats de cette consultation sur l'antenne chaque jour à 8h45 et après les infos de 16h30 sur radiocapi.net.
Bien, sans plus tarder, notre premier thème est intitulé de cette façon, est-il possible d'être un étudiant entrepreneur ? Vous savez, l'entrepreneuriat intéresse de plus en plus certains jeunes porteurs de projets. Cependant, les obligations académiques telles que les TP individuels ou en groupe, les interrogations, stages académiques, examens et autres ne permettent pas à certains de créer une activité pendant leurs études. Par ailleurs, de nombreux jeunes n'ont pas encore développé ce qu'on appelle la culture entrepreneuriale. Ils ne rêvent qu'à devenir des salariés dans des entreprises privé, public ou dans certaines ONG. Alors comment devenir un étudiant entrepreneur? Quels sont les avantages d'associer les études et l'entrepreneuriat? Est-ce que les universités incitent également les jeunes à entreprendre, les étudiants à entreprendre? Bien, on aura des réponses à toutes ces questions avec nos invités qui sont avec moi sur ce plateau. Je vais commencer avec Madame Malika Mukubu, bonjour, encore une fois, bonjour. Alors, vous êtes du collectif Vision Congo. Pouvez-vous d'abord nous présenter votre structure?
L'apprentissage des métiers, la lutte contre les antivaleurs et la promotion de la femme et de la jeune fille sous toutes ses formes. Donc, voilà. En apprentissage, en donnant des apprentissages en allant dans le renforcement des capacités en vue de faciliter l'accès à un métier pour la jeune fille et la femme, et en autonomisant la femme et la jeune fille pour la lutte contre toutes les formes de pauvreté et l'épanouissement social et développement économique de la femme et de la jeune fille congolaise. Et nous militons pour la promotion de ces talents.
D'accord.
Et de plusieurs activités commerciales pour la femme et la jeune fille.
Bien, vous faites beaucoup de choses. Alors, ma première question, Madame Malika, est-il possible d'être étudiant entrepreneur?
Oui, c'est possible parce que je l'ai fait.
Alors, comment s'y prendre?
D'abord, il faudrait retenir que tout entrepreneur doit avoir certaines qualités. Et lorsque nous incarnons ces qualités-là, il suffit d'y travailler pour commencer à, mettre en pratique tout ce qui sont ou qui découle des caractéristiques de l'entrepreneuriat. Qui sont, donc je vais vous dire vite fait, quand vous sentez en vous que vous avez un esprit innovateur, que vous avez des idées, enfin, et que vous pouvez facilement, par rapport aux opportunités qui se présentent, facilement, les comment on dit ça, to get through them, ok, les saisir, voilà, saisir les opportunités quand il le faut, et que vous êtes quelqu'un qui arrive à générer, enfin, ces idées-là peuvent vous générer des revenus. Il y a moyen de pouvoir commencer à entreprendre et commencer à être utile dans la société.
D'accord.
Pour tout ce qui est commercial, revenu et tout le reste. Donc c'est possible. Que moi je l'ai fait quand j'étais étudiante. En même temps je travaillais, mais avec les avantages que j'avais au travail parce que j'étais dans
C'était quel genre de travail?
J'étais dans le beauty industry. Donc j'étais manager chez Debenhams pour Guerlain, pour toutes les grandes marques, les parfumeries et tout ça.
Oui.
Et nous avions comme à l'époque, à la fin de tous les mois, on regardait et il y avait moyen de choisir entre les primes et les différents produits qu'on nous donnait. Mmh. Alors moi, je préférais toujours les produits que je prenais et que je revendais après. Donc c'était en Angleterre, à Londres, et moi j'allais les revendre à Bruxelles où je les envoyais à ma sœur qui était étudiante à l'époque en Belgique aussi et qui les vendait ensuite, et c'était deux fois, trois fois plus cher parce que je choisissais toujours les produits qu'on n'arrivait pas à vendre et qui étaient rares sur le marché.
Et ça vous permettait de payer vos études?
Ah non, ça m'a pas permis de payer mes études, mais ça m'a
les
permis de
pouvoir... Les études
étaient
prises en charge par les parents?
Oui, par mon père, et puis j'ai eu des bourses, et donc grâce à ça, je pouvais m'offrir tout ce que je voulais. Donc j'étais très fashion.
D'accord.
Donc j'achetais mes vêtements, je pouvais aller au cinéma, je pouvais m'offrir des restaurants et tout le reste. Et ça pouvait alléger aussi d'un côté les parents qui, quand des fois ils pouvaient être en retard avec les paiements académiques, et ben moi je pouvais me nourrir, je pouvais payer mon transport et tout le reste.
Merci, je reviens à vous tout à l'heure. On va donner la parole au professeur Kodjo Ndukuma. Il est professeur des universités et expert en droit numérique. Professeur, bonjour.
Oui, bonjour monsieur Jeudy.
Alors je vous pose la même question. Est-ce qu'on peut entreprendre et étudier en même temps?
Bon, en fait, je rebondis bien après Madame Malka pour dire justement que entreprendre signifie de poursuivre des opportunités. Et poursuivre ces opportunités demande détermination et concentration. Et ça nous amène en droit à une définition bien précise. C'est quoi entreprendre des affaires? C'est une occupation sérieuse susceptible de produire à celui qui l'exerce soit un gain, soit un moyen de survie. Et nous sommes bien en milieu étudiant pour savoir que les étudiants sont toujours très courts dans les budgets. Lorsque les parents ont déjà couvert l'essentiel de tout ce qui est académique, au-delà, ça devient un peu de la débrouillardise. Et donc, l'innovation est à saisir comme opportunité. Et là, ça me ramène un peu dans mon domaine du numérique.
Oui.
Parce que, de par la définition, l'entrepreneuriat surfe sur l'innovation, surfe un peu sur la valeur ajoutée.
En passant, professeur, c'est quoi l'entrepreneuriat?
L'entrepreneuriat découle de l'action d'entreprendre. Et c'est une activité lucrative, mais qui n'est pas un emploi. Dans le sens où vous avez, et le professeur Bakengela définira mieux, dans le sens où dans l'emploi, vous avez un employeur et une subordination hiérarchique qui fait que vous travaillez pour le compte de quelqu'un qui spécule sur vos capacités et qui vous paye un salaire. Alors que l'entrepreneuriat montre les capacités d'une personne qui fait une occupation sérieuse et ça lui permet d'avoir les moyens de survie ou un gain, comme l'a expliqué Madame Malika. Elle travaillait pour Guerlain, mais de l'autre côté, elle a fait également son entreprise. Alors, tout dépend de la capacité d'innover. Et donc, on peut avoir comme ça une innovation radicale, une innovation de rupture. Ça veut dire que tout ce qu'on apporte dans son agir personnel, c'est de rendre plus accessible des produits qui, dans une structure normale, ne le seraient pas. Ou encore, vous avez maintenant dans le numérique cette rupture de l'innovation radicale où tout est mis en données. Ça veut dire qu'avec le numérique, vous avez un accès à un public important, qui est, on est aujourd'hui 4,9 milliards de personnes
qui utilisent le numérique,
qui utilisent l'internet. Donc, la manifestation du numérique mondial.
Et en RDC, on est autour de quoi?
En RDC, on est à 48 millions de personnes qui utilisent un réseau téléphonique, mais 22 millions de personnes qui utilisent Internet mobile. Et le groupe, l'application la plus suivie, c'est WhatsApp, Instagram,
TikTok, Facebook.
TikTok, Facebook. Mais encore là, il y a des statistiques qui montrent que, en fait, Facebook, qui est concurrencé par TikTok, a une constellation qui lui permet d'équilibrer. En fait, si vous n'êtes pas sur Facebook, vous êtes sur Instagram. Si vous n'êtes pas sur Instagram, vous êtes sur WhatsApp. Si vous n'êtes pas sur WhatsApp, vous êtes sur Messenger. Et ça donne, pour la partie de l'Afrique subsaharienne, à peu près 204 millions de personnes qui sont sur la constellation Facebook. Alors que TikTok monte et on remarque que les gens passent plus de temps maintenant sur ce réseau qui fait des shorts. Ça veut dire que c'est plus facile de pouvoir faire des éphémérides. Et donc, je reviens donc sur la question pour dire le numérique est aujourd'hui devenu un levier de l'entrepreneuriat. Il y a des nouveaux métiers du numérique qui sont nés simplement parce que l'Internet, le numérique est devenu un porteur de l'innovation. Ça rend les gens beaucoup plus accessibles, ça rend les gens beaucoup plus connectés.
Professeur, quel type de business on peut faire avec le numérique?
Vous avez déjà le digital marketing. Je ne sais pas comment Madame Malika faisait en ce moment-là, mais vous avez aujourd'hui des personnes qui sont, on les appelle des influenceuses, mais en fait, ce sont des personnes qui font de la promotion des marques, soit elles-mêmes en devenant l'égérie de la marque, soit en faisant le relais sur leur page Facebook. Et comme ça, ils ont, ou TikTok, ils ont comme ça des followers. Vous avez également une production de contenu aujourd'hui avec le cyberjournalisme. Vous savez que beaucoup de personnes, il y a eu une dame qui est devenue très célèbre avant même de finir ses études de journaliste, Aïcha Okoko, par exemple. Mm-hmm. Donc il y a des personnes qui sont 24 heures sur 24 sur les réseaux et qui sont devenues à part entière des cyberjournalistes. Un autre exemple aussi, c'est tous ces micro-célébrités qui sont dans l'industrie culturelle. Vous savez qu'aujourd'hui YouTube, vous savez qu'aujourd'hui Facebook donne aux gens...
Il semble que si vous avez plus de vues, voilà. Ça vous rapporte de l'argent.
Exactement. Donc le simple fait d'être créatif et d'avoir une page où vous donnez un contenu, que ce soit culturel, que ce soit artistique, que ce soit scientifique, vous permet d'avoir un certain nombre de vues qui permettent de passer la publicité dessus et la plateforme qui vous héberge partage avec vous en retour un certain nombre de revenus. Donc, il y a plusieurs métiers du numérique pour lesquels, bon, j'attendrai peut-être de faire d'autres développements par vos relances.
On revient tout à l'heure sur cela. Professeur Patrick Chamba, vous êtes expert en stratégie d'entreprise, innovation et entrepreneuriat à l'Université protestante au Congo. Bonjour.
À Leadership Academy aussi.
Ah, Leadership Academy, vous êtes professeur des universités. Alors, c'est la même question qui revient. Être étudiant, entrepreneur, c'est possible. Comment s'y prendre?
Alors, moi, la première chose, c'est de... Quand je regarde le public, je me dis, waouh, il y a vraiment un potentiel. Et chaque fois que je suis en face des étudiants, des fois, je regarde, je dis, mais vous avez une chance extraordinaire. Et l'essentiel, c'est de faire sortir en quelqu'un ce qu'il y a de meilleur en lui. Et ça, c'est sûr et certain que là, je sais qu'il y en a.
Il y a des porteurs de projets ici.
Pas simplement de projets, mais même des idées. Il y a des gens qui ont des choses en eux, mais parfois ils ont besoin simplement que quelqu'un dise « Allez, vas-y, et c'est bon ». Et moi, j'en connais plein. Et donc, je veux dire que c'est possible. Pourquoi est-ce que c'est possible de faire les affaires aujourd'hui? Vous savez qu'aujourd'hui, là où nous sommes, pour faire les affaires, je ne suis pas obligé d'être à 100% dans mes affaires. Parce qu'aujourd'hui, je peux automatiser toute une entreprise. Alors, je sais qu'il y a des gens, parfois je suis un peu très présent sur un réseau social, je ne veux pas dire lequel, mais quelqu'un peut dire, ah, mais comment il est tout le temps là? Et quelqu'un peut penser que je passe tout mon temps à passer sur ce réseau, alors que j'ai tout un, je peux dire, un système. Certaines choses sont automatisées. C'est-à-dire que, bon, voilà, qu'est-ce que je publie quand? Qu'est-ce que je fais? Tout ça, on peut le faire. On peut même aujourd'hui, si vous le voulez bien, vous m'envoyez, un email.
Oui. Il y a une réponse automatique, si vous
Non simplement une réponse automatique, mais je peux le transformer en fichier Excel, automatiquement sans que je m'occupe de ça. Donc je peux le transformer en fichier Excel et je peux même... Non, je peux mettre en place tout un type de processus qui va se faire sans moi.
Donc, ça veut professeur, dire que... si les étudiants doivent entreprendre, ça ne va pas les distraire parce qu'ils doivent... D'abord, il y a un problème. Il semble que dans nos universités, vous ne formez pas des entrepreneurs, mais des demandeurs d'emploi. On ne leur apprend pas, ils ne savent pas comment entreprendre. À la fin, j'ai l'honneur, et ils vont marcher à gauche, à droite, ça ne marche pas. Ils se fatiguent et ils veulent aller en Europe.
Oui, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on sait qu'avec les systèmes LMD qui s'est mis en place, actuellement, l'innovation, c'est que on ne veut pas simplement former des gens qui répètent des choses, qui retiennent des concepts. On veut des gens capables, à la fin de la journée, de produire en fait de bons résultats, c'est-à-dire atteindre un résultat concret. Je vous donne un exemple. Une fois, j'étais dans un de mes cours, j'ai demandé aux étudiants, je commence ces cours, au début du cours, je veux vous donner déjà ce que va être mon examen, avant de commencer les cours. Je vous le donne avant et je dis ceci, je vous ai déjà donné mon examen, quand j'enseigne, il faut me dire, si vous ne comprenez pas quelque chose par rapport à votre question d'examen, vous pouvez me poser des questions et à la fin, et l'examen devait se faire sur YouTube.
Ah, et sur YouTube?
C'était sur YouTube.
Ça, alors, c'est quel type d'examen, professeur?
Alors,
alors, examen sur YouTube.
L'examen était sur
YouTube. Ça, c'est de l'innovation.
Alors, oui, mais c'est, je m'intéresse à l'innovation.
Oui, ça, c'est sûr.
Alors, l'examen était simple, était la chose suivante. En disant, vous allez voir autant de concepts dans ces cours, vous devez me produire juste une vidéo qui peut permettre à quelqu'un qui n'a pas vu le cours, qui puisse dire, ah, ça, j'ai compris. C'est-à-dire que, parce qu'en fait, le grand problème avec l'université, c'est quoi? C'est parfois on a des concepts, on a des choses, et quelqu'un va rester dans un concept, il va dire, voilà, je connais la notion de la stratégie de la diversification. Il sort de cette salle, il ne voit rien de la stratégie. Et s'il sort de là, je dis, mais je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Mais si, à partir d'aujourd'hui, il sort de cette salle, il commence à voir une maman qui vend des beignets et tout ça. Il dit, bah, voilà, ça c'est de la diversification. C'est-à-dire à ce niveau-là, je pense que c'est une meilleure acquisition. C'est-à-dire, comment quitter d'un concept théorique à quelque chose de pratique? Et juste pour terminer, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent, des fois quand on enseigne, ils disent, ah voilà, il est vraiment théorique. Mais ça c'est vraiment une erreur, parce qu'ils pensent que la vraie théorie, elle est théorique. La vraie théorie n'est pas théorique. La vraie théorie, elle est pratique. Parce qu'en fait, finalement, une vraie théorie, c'est quoi? C'est une explication de causalité de choses. Pourquoi est-ce que telle chose s'est faite et pas telle autre? Regardez, on a eu Covid. Le grand problème avec Covid, c'est qu'on a beaucoup tâtonné. Les gens ont dit, est-ce qu'on doit faire ça? Est-ce qu'on doit faire ceci? Jusqu'au moment où on a dit, arrivé à trouver à dire, voici la meilleure manière de faire les choses. Et je crois qu'un des éléments important, notamment au niveau de l'université, c'est non simplement permettre aux étudiants qui ont tout ce qu'ils ont en eux,
oui,
de le faire sortir en eux, mais aussi de leur donner cette possibilité de croire en ce qu'ils vont faire.
Merci, professeur. Sous vos applaudissements, chers camarades, au Capi Service, en direct de Leadership Academia University, et c'est à Fatima. Alors, on va recueillir les questions dans la salle. Est-il possible d'entreprendre, d'être étudiant entrepreneur? Y a-t-il des questions déjà, Tati?
Mais j'aurais voulu quand même compléter, oui, cher professeur.
Professeur Patrick.
Professeur Patrick, il y a une des caractéristiques majeures qu'il faudrait avoir quand on est étudiant pour démarrer dans l'entrepreneuriat et pour mieux faire les choses, pour avoir de bonnes retombées, un très bon retour de ce que vous mettez, vous engagez pour pouvoir avoir des revenus. C'est un bon sens de votre time management. Ça, c'est le plus important. Parce que en donnant plus de temps aux études, vous risquez de ne pas avoir assez dans ce que vous entreprenez. Et quand c'est dans, vous mettez tout votre temps dans ce que vous entreprenez, eh ben, vous ratez et vous n'aurez pas votre graduation, vous n'aurez pas votre diplôme à la fin. Donc, du coup, ça, c'est vraiment c'est très, très important.
Savoir bien gérer son temps,
parce que ça peut être un couteau à double tranchant d'embrasser les deux à la fois. Moi, j'étais mère, j'étais entrepreneur et j'étais aux études. Et je continue encore, là je vais passer ma licence et je travaille et je fais tout ça et les gens s'étonnent. J'ai été graduée en décembre de l'année passée, j'ai encore ma licence ici en juin. Les gens se demandent mais comment elle fait ? Mais des fois je dors pas la nuit, je sacrifie mes nuits pour dormir un peu plus le matin et puis après on s'étonne que bon je suis de mauvaise humeur, mais je préfère de loin être de mauvaise humeur mais savoir
vous,
gérer mon temps pour avoir.
J'imagine que vous dormez dans l'auditoire en train de somnoler.
Oui mais bon ça a quand même payé hein pour les deux, donc voilà c'est un peu ça.
Ok, sous vos applaudissements chers camarades, on va recueillir les questions au Capi Service en direct de Leadership Academia. Nous parlons de l'entrepreneuriat, oui.
Bonjour.
Posez votre question, bonjour.
Je suis étudiante en SPA.
On vous appelle comment ?
Je m'appelle Glody Kachunga.
Ok.
Alors ma question est de savoir, Monsieur Patrick, vous avez parlé que par moment, il faudrait donner faire sortir ce qu'on a de meilleur en nous. Mais ma question est de savoir comment faire sortir les meilleurs en nous, est-ce que ça demande seulement d'avoir une détermination ou faire un pas ou un encouragement? J'aimerais savoir, est-ce que ça demande autre chose pour arriver à faire sortir
le meilleur? Bien, on va prendre une série de 5 questions et ensuite les invités vont répondre. Oui, allez-y, bonjour.
Alors, je suis Gideon Way, étudiant en gestion financière en année terminale. C'est déjà un privilège pour moi de le voir là devant moi. Je suis également un partisan du Web 3.0, ça veut dire dans les domaines du numérique et de la finance décentralisée. Et ma question que je pose au professeur Kodjo, qui est un expert en numérique, est de nous faire une petite description de l'environnement numérique en ce qui concerne le Web 3.0 ou la finance décentralisée en RDC.
En tout cas, nous, on est perdus là. C'est bon, professeur,
parce
comprend très bien.
Le professeur Kodjo a...
Mais est-ce que tu veux simplifier? Explique-nous c'est quoi le web 3.0, je ne sais pas. Okay.
Alors, le professeur Kodjo a soulevé une question très importante sur l'entrepreneuriat lié au numérique. Alors, personnellement, je suis fasciné par cet entrepreneuriat, surtout avec ce qui vient, la nouvelle technologie liée à la finance décentralisée. Je pense que beaucoup d'entre nous ont déjà entendu parler du terme blockchain, ainsi de suite, ces aspects-là. Alors, comme il voit, ma question était de comprendre un peu les enjeux de notre environnement congolais sur ces grandes questions.
Est-ce que vous avez déjà eu une entreprise? Vous faites les affaires en ligne sur Internet déjà?
Oui, personnellement, oui. Et je représente d'ailleurs, je suis un ange Binance d'une grande marque dans ces domaines.
Ça veut dire quoi? Ange Binance?
Binance, c'est la plus grande plateforme d'échange. Vous avez vu, c'était parmi les sponsors de la Coupe du Monde. C'est la plus grande plateforme d'échange à travers le monde. Alors, nous sommes des anges Binance, ça veut dire des personnes qui partagent les expériences de la finance décentralisée, du Web 3.0.
Et vous gagnez de l'argent grâce à ça?
Oui.
Combien par mois? Ça, je sais qu'il ne les dira pas. Merci pour la question. Oui, mademoiselle. Oui, madame, allez-y.
Bonjour.
Bonjour.
Voilà, moi, ma question s'adresse au professeur.
Lequel? Patrick?
Oui, monsieur Patrick. Voilà, professeur Patrick. Au tout début de votre discours, vous avez dit que quand vous voyez la salle, vous voyez des jeunes qui ont des compétences, qui peuvent avoir aussi des projets et tout. Et tout à l'heure même, vous avez parlé aussi que l'enseignement est plus dans la théorie que dans la pratique. Alors moi, ma question, j'aimerais savoir, qu'est-ce que vous, en tant que professeur, vous, qui ont des projets, qui ont des compétences, comment... Et ma deuxième question est, qu'est-ce que vous faites, vous, en tant que professeur, ou qu'est-ce que l'enseignement fait pour rendre les cours moins théoriques et plutôt pratiques pour que, lorsque nous sortons de l'université, nous pouvons mieux nous retrouver, en fait.
D'accord. Comment rendre les cours moins théoriques? Là, c'est déjà la troisième personne, je crois. On prend encore deux et puis les invités vont répondre. Et on va revenir pour une autre série de questions. Bonjour, monsieur.
Oui, bonjour. Moi, c'est l'étudiant Ketan Intiala Imlis, master en droit ICC. J'ai une petite préoccupation qui s'adresse à tous les intervenants.
À tous les invités, oui.
Je crois qu'on essaie un peu d'escamoter un aspect qui est plutôt crucial. Celui de savoir comment on peut être à la fois étudiant
et
entreprendre. Si je vous propose un aspect de l'horaire d'une université, vous allez vous dire, mais waouh, comment est-ce que les étudiants doivent étudier de 8h à 16h, 17h et à la fois entreprendre? C'est un peu compliqué.
Et c'est tous les jours comme ça?
Oui, et on vous parle du système LMD, le système qui ne qui n'est pas peut-être implanté. En tout cas, je parle des universités, je généralise, voilà, parce que l'ICC a aussi un horaire bien aménagé. Donc c'était un peu dans ce sens-là où on fait 8 heures de temps, de 8h à 16h à la fac, et on a le temps d'entreprendre. Ou surtout que certaines universités, ou encore les systèmes belges, où il faut bloquer au lieu de... Voilà, comprendre et faire travailler.
Il faut bloquer quoi?
Bon, c'est ce qu'on a appris. On vous donne des choses que vous devez reproduire telles que présentées. Donc, c'est un peu cet aspect-là qu'on essaye d'escamoter depuis un moment.
Donc, pour vous, c'est pas possible, hein?
Non. On connaît beaucoup plus d'éclairage là-dessus. Et s'il y a des alternatives à proposer, on est là, on écoute.
D'accord. Merci, monsieur. On prend le dernier intervenant et puis, merci de l'encourager par vos applaudissements. Oui, monsieur.
Ouais, bonjour.
Bonjour.
Je m'appelle Empire, je suis artiste, chanteur et entrepreneur.
Ok.
Et ma question était de savoir, je m'adresse à Madame Alika. Ma question était de savoir, on est entrepreneur et on a investi dans quelque chose, étant étudiant, bien sûr. Et des fois... lorsque nous faisons quelque chose, donc on entreprend dans une chose, il y a des agents de l'État qui viennent pour te dire « Oh, tu dois payer ça pour que tu continues, tu dois faire ça et
bon,
ça. »
Bon, c'est ce que vous vivez. Dites-nous clairement, c'est quoi le problème que vous avez eu?
Ouais, mon problème était de savoir comment pallier à ça vu que
vous...
ça...
Vous faites quel genre d'entrepreneur? La musique, c'est ça votre...
Non, j'ai une boulangerie.
Vous avez une boulangerie, oui, vous produisez du pain?
Oui, oui.
Du pain, ok.
Oui, oui.
Et les agents de l'État viennent chaque jour
à demander... Chaque jour, oui.
Et c'est chaque jour que vous payez les taxes?
Bon, chaque jour ils viennent, il y a ceux qui disent non, nous on est... Bon, c'est plusieurs que c'est pas notre pays est organisé comment, il y a... Donc à chaque fois, il y a des gens qui viennent, celui-ci dit, je suis du ministère culture et art, je suis je sais pas de quoi et quoi, et ça notre dividende...
La boulangerie relève du ministère de culture et art.
Imaginez. Ma question était de savoir comment pallier à ce genre de problèmes pour nous les entrepreneurs, en fait. Comment pallier à ce genre de problèmes, comment se comporter et tout. Merci.
D'accord. Sous vos applaudissements, chers camarades. Alors, on commence avec le professeur Kodjo. Bon, vous avez la parole.
Bon, plusieurs questions. Ben, vous savez qu'aujourd'hui, les top 10 des grandes entreprises mondiales, c'est le numérique. Et quand vous regardez Mark Zuckerberg, c'est pas des grandes études brillantes, mais c'est une idée qui fait Facebook et aujourd'hui plusieurs milliers de milliards de capitalisation boursière. Bill Gates, il a innové à partir de son garage et dans tous vos téléphones, vous avez les produits Bill Gates. Hein. Vous avez Travinic avec Uber et le reste. Donc, c'est vrai que les études nous donnent les capacités pour que nous soyons utiles à la société. Je commence d'abord par le procès de l'enseignement pour dire que tout notre système éducatif est tourné dans le sens de nous donner des capacités pour que nous soyons utiles au service des autres. Et généralement, quand on sort de l'université, tout le capital qu'on a, on a juste le capital intellectuel, et on va aller le faire monnayer auprès de quelqu'un qui a le capital financier, le capital matériel pour l'utiliser. Karl Marx disait que la révolution, c'est l'appropriation des moyens de production par ceux qui en étaient privés. Donc pour le moment, le système est fait que quand vous finissez les études, vous n'avez que votre diplôme et vous devez aller auprès de quelqu'un qui vous donne du travail. Alors, le paradigme de l'entrepreneuriat ou même de l'auto-entrepreneuriat, c'est de pouvoir découvrir son propre capital singulier dont parlait le prof Bakengela, que d'autres personnes puissent venir vers vous et dire que ce capital peut être monétisé parce que ce capital apporte quelque chose que sur le marché nous n'avions pas et il y a une valeur ajoutée qui est faite. Mais cela dépend d'un environnement. Nous avons ici un système qui ne prête qu'aux riches, alors qu'aux États-Unis, vous avez le capital risque. Les idées qu'ils valent de l'or, ici, nous, on est dans le meilleur de monde. Hein. Ici, au Congo, les idées qui valent de l'or, j'ai pas vu. Ça veut dire, vous avez aux États-Unis, vous avez un peu maintenant dans les marchés asiatiques, quelqu'un qui a une nouvelle idée, et les gens disent, nous mettons de l'argent là-dedans. C'est un capital risque. Et ce sont ces idées qui ont fait Uber. Ce sont ces idées qui ont fait Facebook. Aujourd'hui, chez nous, notre environnement est celui-là. L'autre élément également, c'est que nous avons un État qui est assez capteur de rente. Ce n'est pas un État qui vous aide à faire un saut qualitatif. Dès que vous faites une activité génératrice de revenus, l'État vient percevoir ses royalties. Alors qu'ailleurs, dans ce domaine de l'entrepreneuriat, on parle d'un concept, le start-up. Ça veut dire qu'on a conçu un écosystème qui permet à la fois que les idées puissent valoir de l'or et que quand les idées sont encore des jeunes pousses, qu'on ne puisse pas trop les écraser,
les étouffer
avec les poids de l'État. Et il y a depuis septembre 2022, dans le ministère de Petites et Moyennes Entreprises et maintenant aussi avec mars 2023, des nouvelles législations qui disent que les jeunes entrepreneurs peuvent prendre le label de start-up et peuvent être épargnés d'un certain nombre de choses. Maintenant aussi, il y a cet environnement de l'accès au crédit. Oui, on peut avoir une bonne idée, mais il faut que des gens financent votre bonne idée pour que ça arrive jusqu'à sa maturation. Surtout si ce sont des idées industrielles. Il y a une jeune fille congolaise qui est maintenant naturalisée américaine qui a trouvé le moyen d'extraire de l'hydrogène liquide, de l'hydrogène dans l'eau douce pour l'industrie de propulsion de moteurs. Cette formule, elle l'a trouvée. Cette formule, elle marche en prototype. Mais il faut des industriels derrière pour amener cette idée qui marche déjà jusqu'à une idée qui est fonctionnelle pour le grand public.
Elle est où? Elle est ici, au Congo?
Non, elle est naturellement aux États-Unis. Voilà. Mais c'était pour un peu faire les choses. Alors, maintenant, le système LMD dont on nous parle, c'est un système qui vous dit, vous maîtrisez le savoir théorique, donc les perroquets, hein, comme vous le dites, Monsieur Imlich, mais vous avez un savoir-faire et vous avez un savoir-être. Vous savez, la valorisation des métiers chez nous, vous savez, les gens qui sont à Beautour, c'est notre Silicon Valley. C'est à Beautour qu'on déverrouille tous les téléphones.
Téléphones qui ont des problèmes.
Il faut c'est à Beautour qu'on arrange
même
tout.
Voler, voilà.
Mais oui. Bon, c'est là aussi qu'on a des hackers, voilà. Mais qu'est-ce que nous avons comme regard sur ces personnes de Beautour qui constituent en fait le Silicon Valley, qui constituent en fait la crème de la crème du numérique congolais? Il y a même des entreprises qui ont du mal à faire fonctionner leurs appareils ou à les réparer. Ils viennent faire le service après-vente à Beautour. Mais quel est le regard sur la valorisation des métiers? Même pour nous-mêmes, est-ce que le garçon boulanger qui est là, qui gagne peut-être un peu plus d'argent que le caissier ou le réceptionniste d'une banque, qui ne touche que 400 $ le mois, est-ce que quand lui il fait du pain, peut-être qu'il en gagne plus le mois, est-ce que nous avons un regard qui le valorise et qui l'encourage à pouvoir entreprendre et aller plus loin? Alors, c'est ça toute une série de questions. Maintenant, je vais répondre à mes propres questions. Vous avez cette question du web 3.0, mais nous l'avons déjà.
Oui, c'est quoi, professeur?
Parce voilà.
Que c'est, nous, là, on comprend.
Nous l'avons. Voilà. En fait, Internet est apparu à un moment donné avec le web sémantique. C'était des sites Internet qui étaient monodirectionnels. Ça veut dire on allait sur un site qui était fixe, on naviguait et tout ça. Il y a eu le web 2.0 qui a été porté par les réseaux sociaux. Ça veut dire tout ce qui est interaction, on devient nous-mêmes de user-generated content, des utilisateurs qui génèrent eux-mêmes leur contenu. Et en fait, on a simplement des tuyaux. Par exemple, Facebook n'a aucune photo, c'est nous qui y mettons des photos. YouTube n'a aucun contenu, c'est nous qui mettons le contenu. En fait, nous valorisons nous-mêmes ces sites qui se cotent en milliards à travers plusieurs contenus que nous créons. C'est ça le web 2.0. Et avec des micro-célébrités, des gens comme Coconzoli ou des gens comme Tumba qui sont connus aujourd'hui. Et puis il y a le web 3.0. C'est ce web de l'intelligence artificielle, le chat GPT dont on parle. C'est le web de la décentralisation des moyens de production avec le Bitcoin. Ça veut dire chacun peut créer sa monnaie en dehors de ceci. C'est aussi le web de l'ubérisation et c'est l'exemple que je voulais donner. Il y a aujourd'hui, vous remarquez, la mobilité dans Kinshasa qui pose un problème. On ne sait plus quand on travaille, aller prendre une pause d'une heure, aller
et
manger
revenir.
Et revenir.
Vous serez coincé dans les bouchons.
Il y a quelqu'un qui a trouvé une idée dans ce web 3.0 maintenant que nous maîtrisons. Il a créé un site qui s'appelle Tupuka. Ça veut dire qu'il y a des motards. Il suffit d'avoir sa moto.
Oui.
Vous avez une application et le gabarit nécessaire. Quelqu'un qui est dans une banque ou dans une entreprise ou dans l'université, il commande à distance d'entrer les restaurants qui sont là.
Oui.
Il y a un motard qui reçoit la commande. On vous dit, pour toute commande qui est inférieure à 10 dollars, vous devez ajouter 5 dollars pour payer le déplacement du motard pour vous le livrer.
Et on vient vous livrer la bouffe au bureau.
Vous ne remarquez pas cette transformation dans le Congo. Ou alors, quand vous faites une commande à 20 dollars, le prix est déjà inclus. Donc, vous avez des gens qui travaillent dans les entreprises et il y a ce web 3.0 où vous commandez sur le site, je sais pas moi, de Galitos, de ceci, de cela. Et il y a un motard qui reçoit la commande qui vous l'envoie. La même chose avec Yango. Ça veut dire que vous voulez prendre un taxi. Si vous devez appeler un taxi dans la rue, il y a l'aléa qui est important. Le taxi peut ne pas prendre votre direction ou le taxi peut être rempli. Mais vous avez votre téléphone, vous appelez le taxi à travers votre téléphone. Et il y a des taxis tout à fait ordinaires qui ont l'application, qui reçoivent la commande de votre course et qui se déplacent à une distance assez courte pour venir vers vous et ils vous prennent. Et il vous amène. Donc, c'est quelque chose qui existe déjà ici.
Professeur, si je comprends bien, les étudiants, pour qu'ils entreprennent, l'opportunité, la grande opportunité, c'est l'Internet.
Oui, la grande opportunité, c'est l'Internet. Moi, j'enseigne à LAU, bien entendu, mais j'enseigne également à l'UCC, où j'ai vu au moins 3 étudiants qui ont des motos. Ça veut dire que quand ils étudient, il y a même un CP de 3e graduat, à la pause, il sort. Il fait un peu le wewa et il revient.
Ah bon?
Oui, et le soir, il fait la même chose. Je connais même son nom. Mais ce qui se passe à l'étranger, tout enfant va à l'université soit avec une première voiture ou avec un scooter ou une trottinette. Qu'est-ce qu'ils font? Ils téléchargent les applications de Uber. Ça veut dire ils sont là. Et s'il y a quelqu'un qui commande quelque chose à manger pendant les heures de pause, où les étudiants sont aussi en pause. Ils reçoivent les commandes de ces gens-là, ils font les courses pour eux, et ils viennent livrer, et par course, ils ont 5 euros. Et donc, si vous avez autant de commandes, parce que vous avez investi dans une moto que les parents vous ont donnée, mais vous avez téléchargé une application qui vous permet de recevoir les commandes, c'est comme ça qu'ils font, comme Madame Malika, pour ajouter quelque chose à leur un peu de beurre aux épinards.
Merci, professeur. On va revenir sur ça. Professeur Patrick Chamba.
Merci. J'ai eu plusieurs questions.
Oui.
Je veux commencer peut-être par la première. Comment faire pour sortir le meilleur que vous avez en vous-même? Alors, il faut savoir qu'il y a des gens qui ne savent même pas qu'ils ont un meilleur en eux-mêmes. Je suis parfois très étonné de voir quelqu'un, il se réveille le matin, il est fatigué.
Fatigué par quoi?
C'est-à-dire il est totalement découragé, en réalité, il ne voit rien. Et n'oubliez pas que ça, c'est un peu votre système de croyance. Et si vous n'y travaillez pas, parce que peut-être que vous habitez dans un endroit où quelqu'un vous a dit, au Congo, il n'y a rien de bon. Un jour, je remarquais sur YouTube, c'était un Chinois qui a fait, ils ont fait un reportage, et les Chinois, tout ce qu'ils rêvaient, c'était de venir au Congo. C'était le plus grand rêve.
Venir au Congo.
Il disait, waouh, si Dieu pouvait permettre que mes pieds tombent en RDC. Mais quand on regarde une bonne partie de la jeunesse, ils rêvent l'étranger. Non, il y a quelque chose que les gens n'ont pas encore vu. Et ça, je sais que on peut travailler là-dessus. Je sais qu'on n'a pas assez de temps ici, mais votre manière, votre croyance première, c'est un élément important. Si vous voyez que les choses seront négatives, j'ai envie de dire, j'ai une mauvaise nouvelle. Elles seront négatives. Non, on peut parler de type de prophétie autoréalisatrice, mais un premier problème, c'est travailler sur soi-même. Et quand vous voyez que quelqu'un pense qu'il n'y a pas de possibilité, etc., voilà, il va vraiment se retrouver que tout cela, ça peut ne pas se réaliser.
Mais professeur, certains disent que le problème des jeunes, c'est qu'ils n'ont pas de modèle dans la société. Bon, ils se disent, bon, ils sont perdus, ils veulent peut-être se lancer en politique, ils se disent que là-bas, il y a beaucoup d'argent.
Je pense là aussi, c'est peut-être une mauvaise compréhension. Bon, il y a qu'un contraste que je n'arrive pas à comprendre, parce que en entrepreneuriat, on dit la chose suivante. Tout problème est une opportunité. Je me dis, wow, en RDC, il y a plein de problèmes.
Mais qu'est-ce qui fait... Quelles sont les opportunités d'affaires?
Mais qu'est-ce qui fait qu'on ne voit pas des opportunités? Non. Voilà, je crois que c'est là où il faut, on doit intervenir.
On doit ouvrir les yeux.
Notamment pour pousser les gens à voir. Heureusement qu'ici à Leadership, je sais qu'en entrepreneuriat, on va revenir sur tous ces éléments et je vous poserai la question de dire, bon, ceux qui ont déjà vu le cours avec moi, ils savent comment créer la chaise qu'il faut mettre dans la poche. Et beaucoup de gens, ah! Et quand on dit ça, il y a quelqu'un qui dit, ah, c'est impossible. Et pourtant, on va trouver que c'est possible. Ok. Si je veux aller encore à autre chose, un deuxième élément, c'est comment est-ce que vous êtes organisé? Comment vous vous organisez? En fait, il y a ici une loi très simple que nous enseignons parfois. C'est la loi de Pareto, la loi 20-80. C'est-à-dire 20% de votre temps peut vous produire 80% de résultats. Il est parfois un peu étonnant de voir que quelqu'un va passer tout son temps, il se réveille avec les réseaux sociaux jusqu'au moment où il est fatigué. C'est-à-dire, il utilise son temps un peu comme ça, et quelqu'un va dire que, bon, quelqu'un peut dire Dieu m'aime vraiment plus que tout le monde, il est convaincu que ça, et que Dieu va lui apporter pour lui quelque chose sur le plateau. Mon fils, comme je t'aime bien, tu as besoin de quoi? Des pizzas, prends. Non, il faut travailler. Et en disant il faut travailler, c'est-à-dire, je vais peut-être terminer par là, parce que moi, quand j'étais étudiant, on avait toujours le 8 heures de temps de cours à l'université, etc. Et moi, quand je commençais l'université, il y a eu quelqu'un qui m'a dit, attention, l'université, c'est dangereux. Il y a des professeurs, quand ils entrent, quand ils vous parlent, c'est pas les humanités. En réalité, j'ai eu peur. J'ai eu peur, j'ai dit, waouh, l'université, c'est compliqué. Et quand je commençais l'université, je commençais à faire mes 2 heures d'études chaque jour, y compris dimanche. 2 heures. Et je peux dire que quand je faisais mes 2 heures, même si vous êtes mon meilleur ami, vous venez me voir pendant mes 2 heures, là, à moins que vous soyez le Saint-Esprit.
Professeur Chamba, oui, Madame Malika va intervenir tout à l'heure. Il y a un étudiant qui a dit sur le plan pratique, oui. Vous êtes à l'université à 8 heures, je crois. Vous commencez les cours à quelle heure? 8 heures jusqu'à 16 heures, 17 heures. La pause peut-être d'une heure, j'imagine. Et vous revenez, à quel moment vous allez entreprendre?
Cela ne veut pas simplement dire qu'il faut être là physiquement, faire les choses soi-même. Entreprendre, il y a plusieurs manières d'entreprendre. Aujourd'hui, il y a, on peut dire plusieurs types de business models. Les business models, c'est comment est-ce que j'arrive à gagner de l'argent. Beaucoup de gens ont cette erreur de dire que pour que je gagne de l'argent, je change un produit contre un bien. Ça, c'est faux. On peut trouver plus de 55 types autres manières de gagner de l'argent. Comme quelqu'un disait, mais Google, il nous offre des choses gratuitement. Comment expliquer qu'en 2019, Google a réalisé 149 milliards de dollars? 149 milliards de dollars, si on revient en RDC, en disant que la RDC a un budget moyen de 10 milliards, ça fait 14 années. C'est-à-dire, avec un seul budget, Google peut dire, je payais les présidents, les premiers ministres, les militaires, les enseignants.
Les enseignants, tout le monde.
Mais il vous offre quelque chose gratuitement. Non, c'est pas gratuit. Il y a une partie qui est gratuite, mais il y a les infos qui sont collectées chez vous qui permet de valoriser. Donc, c'est possible. C'est possible d'entreprendre si on change de business model, si on comprend les autres manières de le faire. On ne gagne pas de l'argent qu'en échangeant un produit contre un bien. C'est le vieux modèle qu'on connaît, mais il y en a plusieurs autres.
D'accord. Merci, professeur. Sous vos applaudissements, chers camarades, Madame Malika, vous avez la parole.
Oui, merci. En fait, nous sommes en train de nous complétons, hein. Alors, par rapport à la question du jeune homme et la réponse qu'a donnée le professeur Patrick sur comment ressortir le meilleur en soi-même, il est très important d'avoir ou de pouvoir d'abord vous détecter les personnes qui vous apportent un plus dans la vie. Et c'est à ce moment-là que ces personnes-là, à leur tour, vont vous renvoyer le reflet de ce que vous leur donnez. C'est comme un miroir. Alors, comme on n'a pas pu terminer la vidéo, vous avez entendu quelques jeunes filles, et dont le premier qui est aujourd'hui, il est numéro un de sa propre société, il est même dans la salle. Même, il continue hein, avec les études, et en même temps, il travaille. Hier, on était au bureau justement pour préparer la conférence d'aujourd'hui, et je dis, mais qu'est-ce que tu as, tu parles lentement, ou avant-hier, il me dit, ah madame, j'ai étudié toute la nuit, j'ai les examens et tout ça. Mais je me fâche pas parce que je sais qu'il en a besoin pour pouvoir aller beaucoup plus loin. Et j'ai vu en lui ce que lui n'arrivait pas à voir ou à retrouver en lui. J'ai trouvé que c'était quelqu'un miné, c'était quelqu'un qui était multitask, donc il pouvait faire plusieurs choses à la fois, et il avait simplement besoin d'être guidé, d'être encouragé. Une chose, je vous donne un conseil gratuit, ne jamais se mettre avec des gens qui vous disent que vous êtes incapable de faire quoi que ce soit. Évitez les personnes qui vous tirent vers le bas, qui vous dénivellent vers le bas, parce que c'est vous détruire, c'est vous éteindre, alors que vous êtes supposé briller. Ok? Il y a aussi une autre chose, c'est que d'abord, vous devez vous-même ce que vous aimez faire. Aujourd'hui, vous pouvez prendre ça pour de la blague. Ah ben, j'aime beaucoup le make-up. Moi, il y a une des filles que vous avez vues là qui est hôtesse de l'air, mais pendant ses heures creuses, pendant les jours où elle ne travaille pas, où elle n'est pas dans les airs, eh ben, elle fait le maquillage. Elle m'a maquillée plusieurs fois pour mes sorties officielles et je l'ai connectée à plusieurs autres personnes. Et quand elle doit aller travailler, elle a son uniforme. Et d'ailleurs, en passant, c'est moi qui fournis les uniformes de Congo Airways depuis 2015 aussi. Donc,
okay.
Oui, c'est moi qui habille toute la compagnie sur toute l'étendue. La dîme. j'ai été un peu en pause avec les cours et tout ça et tout le reste, mais mm-hmm. C'est quelque chose, l'opportunité.
D'accord.
Donc, la société devait commencer, mm-hmm. Il devait démarrer, et puis j'ai dit à mon père qui est dans l'aviation depuis très longtemps, il était le représentant numéro un de Brussels Airlines, et je l'ai vu voir durant toute ma vie, l'aéroport s'occuper de ceci, de cela et tout, et il est passé de directeur commercial à secrétaire général. Et je regardais faire et un jour j'ai dit, papa, j'ai besoin que tu me connectes, je veux faire ça. Il me dit, mais par où tu vas commencer? Mais tu sais, au Congo, c'est difficile. Là, je réponds automatiquement à la question sur les taxes, sur l'État. C'est difficile.
Ah, le boulanger.
Voilà. Donc, j'y vais comme ça pour gagner un peu plus de temps. Alors, c'est difficile, comment tu vas faire? Parce que j'avais un magasin, je représentais une marque Owes & Curtis qui était en Angleterre ici. Pendant 5 ans, j'ai dû fermer à cause des tracasseries justement de toutes ces personnes, des taxes et tout ça. Et je lui ai dit, papa, je vais arriver. Aide-moi simplement. Donne-moi les échantillons. J'ai besoin des échantillons de tout ce qui est de Brussels Airlines. Et moi, je vais voir comment je vais me débrouiller. Et je lui ai dit, j'ai besoin que tu me connectes à telle personne. Des fois, je prenais simplement son téléphone, je regardais le numéro, je dis, appelle-moi cette personne, je veux la voir. Donc, il faut avoir des... Et c'est vrai, on a un problème aussi, c'est des rôles modèles. Il faut vous mettre en tête qu'il y a toujours quelqu'un qui est passé avant vous pour réaliser des choses, ou que ce soit les mêmes choses, ou dans l'à peu près, mais tout
alors,
ça
madame,
avant
madame
vous.
Alors, madame Malika, je pense que les jeunes sont intéressés. Après l'émission, comment est-ce qu'ils peuvent... vous contacter, mais ils ont...
Ah non.
Vous avez parlé des rôles modèles, les personnes,
oui.
Ils ont peut-être besoin de parler avec vous.
Mais on n'a jamais assez de temps, c'est ça le problème. Ouais. Parce que je sais très bien que les étudiants en ont besoin, les jeunes gens en ont besoin pour avoir confiance en eux et tout ça et démarrer.
Oui.
Mais bon, mon coordonnateur est là.
Le cordon, monsieur le cordon.
Oui,
bonjour.
Monsieur le cordon est là, monsieur Olivier.
D'accord.
Vous pourrez le contacter à la fin, prendre les numéros, mais moi, en même temps, je vais demander humblement, parce qu'on n'a pas de temps, de faire les choses beaucoup plus calmement,
oui.
Ok, avec tous ceux qui auront besoin d'avoir, c'est du coaching en même temps. Et moi, je le dis, nous avons besoin de ça aujourd'hui dans ce pays. Parce que plusieurs jeunes sont aujourd'hui découragés par plusieurs personnes qui sont passées avant et qui ont mal fait les choses. Et donc, du coup, les choses sont un peu tordues parce que, bon, tout a été biaisé.
Merci,
alors
merci,
que
Madame
Malika. Il y a moyen de faire mieux.
Merci, merci. D'accord. De l'encourager par vos applaudissements. Nous sommes en train d'atterrir pour cette première partie de l'émission au Capi Service. Nous parlons de, et c'est possible d'être étudiant et en même temps entrepreneur. Professeur Kodjo, votre dernier mot, qu'est-ce que vous pouvez dire aux étudiants qui vous suivent?
En fait, nous sommes dans une réalité de l'auto-entrepreneuriat sans nous en rendre compte. Le système D marche fort en République démocratique du Congo. C'est simplement que nous sommes dans un stade d'informalisation, donc c'est informel, et dans un stade où on n'en perçoit pas la valeur. Regardez les Malewa. C'est le même modèle économique que toutes les chaînes de Kin Marché, de Régal et tout le reste. Vraiment, je vous appelle à cette observation.
Et les étudiants sont des bons clients des Malewa.
Vous allez vous rendre compte, effectivement, dans toutes les universités, même à LAU, j'ai vu, il y a toujours un coin où les étudiants mangent. Mais ce coin n'est souvent pas bien aménagé. J'enseigne dans 10 universités. Alors que vous avez des clients qui sont au nombre de 1000, au moins 1000, en termes du nombre d'étudiants qui sont regroupés. Les salles sont belles, mais les lieux où les étudiants mangent ne sont pas, vraiment je le dis, dans les universités où je suis, sauf dans une seule. Mais vous prenez le même Malewa, c'est les mêmes recettes des, comment on appelle ça, des gombos, les mêmes recettes de l'Ikayabu que de Fumboa.
De chenilles aussi.
Que maintenant l'Indien a appris, hein, il a connu, il connaît maintenant nos recettes, et il les offre sur des assiettes jetables qui sont, voilà...
C'est tout bien ça. Emballé, c'est comme, propre.
C'est bien présenté. Quand vous prenez également, les en termes de jeux, moi, j'ai financé mes études à l'UPC et le prof Bakenge l'a été un aîné parce que j'avais un kicker et une table de ping-pong et à côté, j'avais un jeu vidéo dans le coin de Ngiringiri où on avait juste mis une télé et les gens payaient pour venir jouer. Mais qu'est-ce que le blanc de Paris Bête est venu faire? Les garçons qui ont grandi comme moi à la cité, ils jouaient aux cartes, aux petits casinos, ça existe à la cité, pour gagner de l'argent au-dessus de ce que les parents donnent. Mais le Mundele de Winner est venu ici. On a dit d'ailleurs qu'on puisse chasser un président et qu'on garde ce Mundele-là. Mais il est venu simplement... Il est venu simplement jouer sur ce qui se faisait déjà. Bon, et puis, il y a, comme Madame Malika le dit, les success stories. Vous connaissez l'histoire de Papa Kindwelo. Où est-ce qu'il a commencé pour arriver là où il est? Il était, avant même d'être combiste, il vendait du pétrole. Et c'est la première activité qu'il a fait de cette façon. Et aujourd'hui, il a su d'œil.
Il y a aussi Dokolo à l'époque.
Dokolo, on vous dira que c'était des gens qui avaient commencé tout petit. Le papa Ledia, Lengo, c'est la même chose. Mais les gens ne racontent pas souvent leur histoire. Et les enfants ne se rendent pas compte qu'il y a quelqu'un comme Didi Kinwani, que tout le monde chante aujourd'hui, qui avait commencé par aller, peut-être grâce à MNEA, Kester, à aller chercher de diamants de tel côté. Vous avez tous ces modèles de success story. Personne ne nous les raconte à l'envers pour que les jeunes sachent que quand ils sont là, ils peuvent sortir de l'informel, rendre cela plus organisé, et ainsi de suite. Dernier exemple.
Oui, il y a professeur.
Le président de l'acteur du numérique, je le cite qu'il a, parce qu'il m'a aidé à faire cette émission. Ils ont commencé par comprendre que les tauges étaient demandées à toutes les collations et les tauges s'arrachaient. Sa femme a quitté son entreprise et elle dit, je vais coudre des tauges. Et c'est ce qu'elle a commencé à faire. Et aujourd'hui, les commandes des tauges sont tellement importantes. J'ai même demandé à une université assez quand même bien placée, je dis, mais pourquoi vous n'achetez jamais des tauges? Pourquoi vous envoyez toujours les étudiants aller les louer? Donc elle a compris une opportunité, et tout ce qu'elle a fait aujourd'hui, le domaine de la location de tauges, où elle est pratiquement l'oligopole de Kinshasa.
Professeur,
combien
merci.
De collations de grades? 3000, 4000 étudiants, oui. Voilà. Mais seulement, le success story, on ne les connaît pas. Les
professeur Kodjo,
merci beaucoup.
Est-ce qu'on peut l'applaudir très fort? Il est professeur des universités. Nous disons également merci à Madame Malika. Merci de l'applaudir très 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 fort. Professeur Patrick Chamba, on va le garder pour la deuxième partie de l'émission. Voilà, merci beaucoup, chers camarades, pour votre présence. Pour cette première partie de l'émission, on va entamer la deuxième partie tout à l'heure où on va parler du leadership.